Le Lys dans la vallée, chapitre 15. Un soir, pendant les dernières visites de M. Origet, qui avait positivement annoncé la convalescence du comte, je me trouvais avec Jacques et Madeleine sous le perron, où nous étions tous trois couchés sur les marches, emportés par l'attention que demandait une partie d'onchets que nous faisions avec des tuyaux de paille et des crochets armés d'épingles. Monsieur de Mortsauf dormait. En attendant que son cheval fût attelé, le médecin et la comtesse causaient à voix basse dans le salon. Monsieur Origet s'en alla sans que je m'aperçusse de son départ. Après l'avoir reconduit, Henriette s'appuya sur la fenêtre, d'où elle nous contempla sans doute pendant quelque temps à notre insu. La soirée était une de ces soirées chaudes où le ciel prend les teintes du cuivre, où la campagne envoie dans les échos mille bruits confus. Un dernier rayon de soleil se mourait sur les toits. Les fleurs des jardins embaumaient les airs. Les clochettes des bestiaux ramenés aux étables retentissaient au loin. Nous nous conformions au silence de cette heure tiède, en étouffant nos cris de peur d'éveiller le comte. Tout à coup, malgré le bruit onduleux d'une robe, j'entendis la contraction gutturale d'un soupir violemment réprimé. Je m'élançai dans le salon. Je vis la comtesse assise dans l'embrasure de la fenêtre, un mouchoir sur la figure. Elle reconnut mon pas et me fit un geste impérieux pour m'ordonner de la laisser seule. Je vins, le cœur pénétré de crainte, et voulus lui ôter son mouchoir de force. Elle avait le visage baigné de larmes. Elle s'enfuit dans sa chambre et n'en sortit que pour la prière. Pour la première fois depuis 50 jours, je l'emmenai sur la terrasse et lui demandai compte de son émotion. Mais elle affecta la gaieté la plus folle et la justifia par la bonne nouvelle que lui avait donnée Origet. « Henriette, Henriette, lui dis-je, vous la saviez au moment où je vous ai vue pleurant. Entre nous deux, un mensonge serait une monstruosité. » Pourquoi m'avez-vous empêché d'essuyer ces larmes? M'appartenaient-elles donc? J'ai pensé, me dit-elle, que pour moi cette maladie a été comme une balle dans la douleur. Maintenant que je ne tremble plus pour Monsieur de Mortsauf, il faut trembler pour moi. Elle avait raison. La santé du comte s'annonça par le retour de son humeur fantasque. Il commençait à dire que ni sa femme, ni moi, ni le médecin ne savaient le soigner. Nous ignorions tous et sa maladie et son tempérament, et ses souffrances et les remèdes convenables. Origet, infatué de je ne sais quelle doctrine, voyait une altération dans les humeurs, tandis qu'il ne devait s'occuper que du pylore. Un jour, il nous regarda malicieusement comme un homme qui nous aurait épiés ou bien devinés, et il dit en souriant à sa femme « Eh bien, ma chère, si j'étais mort, vous m'auriez regretté sans doute, mais avouez-le, vous vous seriez résignée. » « J'aurais porté le deuil de cour, rose et noir, » répondit-elle en riant afin de faire taire son mari. Mais il y eut surtout à propos de la nourriture que le docteur déterminait sagement, en s'opposant à ce que l'on satisfît la faim du convalescent, des scènes de violence et des criailleries qui ne pouvaient se comparer à rien dans le passé, car le caractère du comte se montra d'autant plus terrible qu'il avait, pour ainsi dire, sommeillé. Forte de ces ordonnances du médecin et de l'obéissance de ses gens, stimulée par moi qui vis dans cette lutte un moyen de lui apprendre à exercer sa domination sur son mari, la comtesse s'enhardit à la résistance. Elle sut opposer un front calme à la démence et aux cris. Elle s'habitua, le prenant pour ce qu'il était, pour un enfant, à entendre ses épithètes injurieuses. J'eus le bonheur de lui voir saisir enfin le gouvernement de cet esprit maladif. Le comte criait, mais il obéissait, et il obéissait surtout après avoir beaucoup crié. Malgré l'évidence des résultats, Henriette pleurait parfois à l'aspect de ce vieillard décharné, faible, au front plus jaune que la feuille, près de tomber, aux yeux pâles, aux mains tremblantes. Elle se reprochait ses duretés. Elle ne résistait pas souvent à la joie qu'elle voyait dans les yeux du comte quand, en lui mesurant ses repas, elle allait au-delà des défenses du médecin. Elle se montra d'ailleurs d'autant plus douce et gracieuse pour lui qu'elle l'avait été pour moi. Mais il y eut cependant des différences qui remplirent mon cœur d'une joie illimitée. Elle n'était pas infatigable. Elle savait appeler ses gens pour servir le comte quand ses caprices se succédaient un peu trop rapidement et qu'il se plaignait de ne pas être compris. La comtesse voulut aller rendre grâce à Dieu du rétablissement de M. de Mortsauf. Elle fit dire une messe et me demanda mon bras pour se rendre à l'église. Je l'y menai. Mais pendant le temps que dura la messe, je vins voir M. et Mme de Chessel. Au retour, elle voulut me gronder. « Henriette, lui dis-je, je suis incapable de fausseté. Je puis me jeter à l'eau pour sauver mon ennemi qui se noie, lui donner mon manteau pour le réchauffer. Enfin, je lui pardonnerai, mais sans oublier l'offense. » Elle garda le silence et pressa mon bras sur son cœur. « Vous êtes un ange. Vous avez dû être sincère dans vos actions de grâce, dis-je, en continuant. La mère du prince de la paix fut sauvée des mains d'une populace furieuse qui voulait la tuer, et quand la reine lui demanda « Que faisiez-vous ?», elle répondit « Je priais pour eux. » La femme est ainsi. Moi, je suis un homme et nécessairement imparfait. « Ne vous calomniez point, » dit-elle en me remuant le bras avec violence. « Peut-être valez-vous mieux que moi. »« Oui, » repris-je, « car je donnerai l'éternité pour un seul jour de bonheur, et vous ?»« Et moi ?» dit-elle en me regardant avec fierté. Je me tus et baissai les yeux pour éviter la foudre de son regard. « Moi ?» reprit-elle. « De quel moi parlez-vous ? Je sens bien des moi en moi. Ces deux enfants, ajouta-t-elle en montrant Madeleine et Jacques, sont des moi. Félix, dit-elle avec un accent déchirant, me croyez-vous donc égoïste ? Pensez-vous que je serais sacrifiée toute une éternité pour récompenser celui qui me sacrifie sa vie ? Cette pensée est horrible. Elle froisse à jamais les sentiments religieux. Une femme aussi déchue peut-elle se relever ? Son bonheur peut-il l'absoudre ? Vous me feriez bientôt décider ces questions. Oui, je vous livre enfin un secret de ma conscience. Cette idée m'a souvent traversé le cœur. Je l'ai souvent expédiée par de dures pénitences. Elle a causé des larmes dont vous m'avez demandé compte avant-hier. Ne donnez-vous pas trop d'importance à certaines choses que les femmes vulgaires mettent à haut prix et que vous devriez... Oh ! Dit-elle en m'interrompant. « Leur en donnez-vous, au moins. » Cette logique arrêta tout raisonnement. « Eh bien, reprit-elle, sachez-le. Oui, j'aurai la lâcheté d'abandonner ce pauvre vieillard dont je suis la vie. Mais mon ami, ces deux petites créatures si faibles qui sont en avant de nous, Madeleine et Jacques, ne resteraient-ils pas avec leur père ? Eh bien, croyez-vous, je vous le demande, croyez-vous qu'ils vécussent 3 mois sous la domination insensée de cet homme, si en manquant à mes devoirs, il ne s'agissait que de moi ? Elle laissa échapper un superbe sourire. Mais n'est-ce pas tuer mes deux enfants ? Leur mort serait certaine. Mon Dieu ! S'écria-t-elle. Pourquoi parlons-nous de ces choses ? Mariez-vous et laissez-moi mourir ! Elle dit ces paroles d'un ton si amer, si profond, qu'elle étouffa la révolte de ma passion. « Vous avez crié là-haut sous ce noyer. Je viens de crier, moi, sous ces aulnes. Voilà tout. Je me tairai désormais. »« Vos générosités me tuent, » dit-elle en levant les yeux au ciel. Nous étions arrivés sur la terrasse. Nous y trouvâmes le comte assis dans un fauteuil, au soleil. L'aspect de cette figure fondue, à peine animée par un sourire faible, éteignit les flammes sorties des cendres. Je m'appuyai sur la balustrade en contemplant le tableau que m'offrait ce moribond entre ses deux enfants toujours malingres et sa femme pâlie par l'éveil, amaigrie par les excessifs travaux, par les alarmes et peut-être par les joies de ces 2 terribles mois. mais que les émotions de cette scène avaient coloré outre mesure. À l'aspect de cette famille souffrante, enveloppée des feuillages tremblotants, à travers lesquels passait la grise lumière d'un ciel d'automne nuageux, je sentis en moi-même se dénouer les liens qui rattachent le corps à l'esprit. Pour la première fois, j'éprouvais ce spleen moral que connaissent, dit-on, les plus robustes lutteurs au fort de leur combat, espèce de folie froide qui fait un lâche de l'homme le plus brave, un dévot d'un incrédule, qui rend indifférent à toute chose, même aux sentiments les plus vitaux, à l'honneur, à l'amour. Car le doute nous ôte la connaissance de nous-mêmes et nous dégoûte de la vie. Pauvre créature nerveuse, que la richesse de votre organisation livre sans défense à je ne sais quel fatal génie où sont vos pères et vos juges. Je connus comment le jeune audacieux qui avançait déjà la main sur le bâton des maréchaux de France, habile négociateur autant qu'intrépide capitaine, avait pu devenir l'innocent assassin que je voyais. Mes désirs, aujourd'hui couronnés de roses, pouvaient avoir cette fin. Épouvanté par la cause autant que par les faits, demandant comme l'impie où était ici la providence, je ne pus retenir deux larmes qui roulèrent sur mes joues. « Qu'as-tu, mon bon Félix ?» me dit Madeleine de sa voix enfantine. Puis Henriette acheva de dissiper ses noires vapeurs et ses ténèbres par un regard de sollicitude qui rayonna dans mon âme comme le soleil. En ce moment, le vieux piqueur m'apporta de Tours une lettre dont la vue m'arracha je ne sais quel cri de surprise et qui fit trembler Madame de Mortsauf par contre-coup. Je voyais le cachet du cabinet. Le roi me rappelait. Je lui tendis la lettre. Elle la lut d'un regard. « Il s'en va ?» dit le comte. « Que vais-je devenir ?» me dit-elle en apercevant pour la première fois son désert sans soleil. Nous restâmes dans une stupeur de pensée qui nous oppressa tous également, car nous n'avions jamais si bien senti que nous nous étions tous nécessaires les uns aux autres. La comtesse eut, en me parlant de toutes choses, même indifférentes, un son de voix nouveau, comme si l'instrument eût perdu plusieurs cordes et que les autres se fussent détendus. Elle eut des gestes d'apathie et des regards sans lueur. Je la priai de me confier ses pensées. « En ai-je ? » me dit-elle. Elle m'entraîna dans sa chambre, me fit asseoir sur son canapé, fouilla le tiroir de sa toilette, se mit à genoux devant moi et me dit « Voilà les cheveux qui me sont tombés depuis un an. Prenez-les, ils sont bien à vous. Vous saurez un jour comment et pourquoi. » Je me penchai lentement vers son front. Elle ne se baissa pas pour éviter mes lèvres. Je les appuyai saintement, sans coupable ivresse, sans volupté chatouilleuse, mais avec un solennel attendrissement. Voulait-elle tout sacrifier ? Allait-elle seulement, comme je l'avais fait, au bord du précipice ? Si l'amour l'avait amenée à se livrer, elle n'eût pas eu ce calme profond, ce regard religieux, et ne m'eût pas dit de sa voix pure « Vous ne m'en voulez plus ?» Je partis au commencement de la nuit. Elle voulut m'accompagner par la route de Frapesle, et nous nous arrêtâmes au noyer. Je lui montrai, lui disant comment de là je l'avais aperçu 4 ans auparavant. « La vallée était bien belle, » m'écriai-je. « Et maintenant ? » reprit-elle vivement. « Vous êtes sous le noyer, » lui dis-je, « et la vallée est à nous. » Elle baissa la tête et notre adieu se fit là. Elle remonta dans sa voiture avec Madeleine et moi dans la mienne, seule. De retour à Paris, je fus heureusement absorbée par des travaux pressants qui me donnèrent une violente distraction et me forcèrent à me dérober au monde qui m'oublia. Je correspondis avec Madame de Mortsauf, à qui j'envoyais mon journal toutes les semaines et qui me répondait 2 fois par mois. Vie obscure et pleine, semblable à ces endroits touffus, fleuris et ignorés, que j'avais admirés naguère encore au fond des bois en faisant de nouveaux poèmes de fleurs pendant les 2 dernières semaines. Oh, vous qui aimez, Imposez-vous de ces belles obligations. Chargez-vous de règles à accomplir, comme l'Église en a donné pour chaque jour aux chrétiens. C'est de grandes idées que les observances rigoureuses créées par la religion romaine. Elles tracent toujours plus avant dans l'âme les sillons du devoir par la répétition des actes qui conservent l'espérance et la crainte. Les sentiments courent toujours vifs dans ces ruisseaux creusés qui retiennent les eaux, les purifient, rafraîchissent incessamment le cœur et fertilisent la vie par les abondants trésors d'une foi cachée, source divine où se multiplie l'unique pensée d'un unique amour. Ma passion, qui recommençait le Moyen-Âge et rappelait la chevalerie, fut connue je ne sais comment. Peut-être le roi et le duc de Lenoncourt en causèrent-ils. De cette sphère supérieure, l'histoire à la fois romanesque et simple d'un jeune homme qui adorait pieusement une femme belle, sans public, grande dans la solitude, fidèle sans l'appui du devoir, se répandit sans doute au cœur du faubourg Saint-Germain. Dans les salons, je me trouvais l'objet d'une attention gênante, car la modestie de la vie a des avantages qui, une fois éprouvés, rendent insupportable l'éclat d'une mise en scène constante. De même que les yeux, habitués à ne voir que des couleurs douces, sont blessés par le grand jour, de même il est certains esprits auxquels déplaisent les violents contrastes. J'étais alors ainsi. Vous pouvez vous en étonner aujourd'hui, mais prenez patience. Les bizarreries du vent de Nesse actuel vont s'expliquer. Je trouvais donc les femmes bienveillantes et le monde parfait pour moi. Après le mariage du duc de Berry, la cour reprit du faste, les fêtes françaises revinrent. L'occupation étrangère avait cessé, la prospérité reparaissait, les plaisirs étaient possibles. Des personnages illustres par leur rang ou considérables par leur fortune abondèrent de tous les points de l'Europe dans la capitale de l'intelligence où se retrouvent les avantages des autres pays et leurs vices agrandis, aiguisés par l'esprit français. 5 mois après avoir quitté Clochegourde, au milieu de l'hiver, mon bon ange m'écrivit une lettre désespérée en me racontant une grave maladie de son fils et à laquelle il avait échappé, mais qui laissait des craintes pour l'avenir. Le médecin avait parlé de précautions à prendre pour la poitrine, mot terrible qui, prononcé par la science, teint en noir toutes les heures d'une mère. À peine Henriette respirait-elle, à peine Jacques entrait-il en convalescence, que sa sœur inspira des inquiétudes. Madeleine, cette jolie plante qui répondait si bien à la culture maternelle, subissait une crise prévue, mais redoutable pour une si frêle constitution. Abattue déjà par les fatigues que lui avait causées la longue maladie de Jacques, la comtesse se trouvait sans courage pour supporter ce nouveau coup, et le spectacle que lui présentaient ces deux chers êtres la rendait insensible aux tourments redoublés du caractère de son mari. Ainsi, les orages, de plus en plus troubles et chargés de gravier, déracinaient par leurs vagues âpres les espérances le plus profondément plantées dans son cœur. Elle s'était d'ailleurs abandonnée à la tyrannie du comte, qui de guerre lasse avait regagné le terrain perdu. « Quand ma force enveloppait mes enfants, m'écrivait-elle, pouvais-je l'employer contre Monsieur de Mortsauf, et pouvais-je me défendre de ses agressions en me défendant contre la mort ? En marchant aujourd'hui, seule et affaiblie, entre les deux jeunes mélancoliques qui m'accompagnent, je suis atteinte par un invincible dégoût de la vie. Quel coup puis-je sentir ? À quelle affection puis-je répondre quand je vois sur la terrasse Jacques immobile, dont la vie ne m'est plus attestée que par ces deux beaux yeux agrandis de maigreur, caves comme ceux d'un vieillard, et dont, fatal pronostic, l'intelligence avancée contraste avec sa débilité corporelle. Quand je vois à mes côtés cette jolie Madeleine, si vive, si caressante, si colorée, maintenant blanche comme une morte, ses cheveux et ses yeux me semblent avoir pâli. Elle tourne sur moi des regards languissants, comme si elle voulait me faire ses adieux. Aucun mets ne la tente, ou si elle désire quelque nourriture, elle m'effraie par l'étrangeté de ses goûts. La candide créature, quoique élevés dans mon cœur, rougit en me les confiant. Malgré mes efforts, je ne puis amuser mes enfants. Chacun d'eux me sourit, mais ce sourire leur est arraché par mes coquetteries et ne rit pas d'eux. Ils pleurent de ne pouvoir répondre à mes caresses. La souffrance a tout détendu dans leur âme, même les liens qui nous attachent. Ainsi, vous comprendrez combien Clochegourde est triste. Monsieur de Mortsauf y règne sans obstacle. Ah, mon ami, vous, ma gloire, m'écrivait-elle plus loin. Vous devez bien m'aimer pour m'aimer encore, pour m'aimer inerte, ingrate et pétrifiée par la douleur.